Vous écoutez On lit pour vous.
L'Apocalypse en accéléré. Un texte de Marc Cassivi, paru le 9 avril 2026 dans la presse. Les rendez-vous Québec Cinéma, RVQC, comptent projeter des films en accéléré afin de s'adapter aux habitudes de visionnement de la génération Z. Le premier en lice, Amour Apocalypse, d'Anne Aymon, un film de 1h40, présenté en primeur l'an dernier au Festival de Cannes, sera projeté en version condensée de 66 minutes grâce à la fonction vitesse 1,5, populaire notamment sur YouTube. Cette initiative, baptisée « Les moins longs métrages », permettra aux spectateurs présents le 25 avril 2026 à la représentation d'Amour Apocalypse à la Cinémathèque québécoise d'économiser 34 précieuses minutes qui pourront être consacrées à visionner sur TikTok des vidéos de bébés dansant créées par l'IA. Oui, c'est un véritable phénomène en vogue. Oui, je suis un archétypal chroniqueur cynique de la génération X. Au bureau, lorsqu'on a reçu le communiqué, on a cru à un canular, d'autant plus qu'il provenait d'une adresse courriel avec le mot « avril ». Nenni. Ce n'est pas une mauvaise blague. Les RVQC cherchent, comme bien des organismes culturels, à rajeunir leur auditoire par tous les moyens possibles, désespérés et désespérants. Or, la moitié des jeunes de 18 à 34 ans préfèrent regarder des vidéos en accéléré, selon une étude récente de l'Observatoire des technologies des médias. Je comprends évidemment l'attrait de suivre en accéléré les épisodes d'une série télé conçue pour être écoutée pendant que l'on consulte son téléphone, voir un film hollywoodien que l'on a déjà vu, alors qu'on court sur un tapis roulant. Libre à chacun de faire ce qui lui plaît, comme il l'entend. On n'arrête pas le progrès, ni la fonction FFW qui existait déjà sur nos vieux magnétoscopes. Les plus jeunes me traiteront de vieux jeux, mais je trouve que cette initiative des RVQC envoie un bien drôle de message. Inciter un jeune public à découvrir le cinéma québécois en l'encourageant à ne pas regarder un film québécois tel qu'il a été imaginé et conçu par ses artisans me semble antinomique. On parle ici d'un film d'auteur québécois présenté à la Cinémathèque québécoise dans le cadre d'un événement annuel dont la mission est de mettre en valeur le cinéma québécois. Pas d'un film muet burlesque de Max Sennett projeté dans un festival en plein air. Une tragicomédie romantique et chaotique bilingue sur des sujets aussi complexes que l'amour, l'éco-anxiété et la santé mentale. En perdre des nuances parce que le débit d'un monologue d'Adam, Patrick Yvon, a été accéléré au cinéma de 50% m'apparaît comme une atteinte à l'intégrité de l'œuvre d'Anne Aymon. Je n'aurais pas accepté que mon film soit présenté en première mondiale en accéléré juste pour faire cool, me rassure la cinéaste. Mais on ne va pas nier la réalité, ça existe, des jeunes qui regardent des films en accéléré sur leur téléphone. C'est pas toi qui écrivais sur des étudiants américains en cinéma qui ne s'intéressent pas aux films longs et lents? Touché. Si Anne Aymon a accepté que son plus récent film serve de cobaye à cette initiative, c'est parce qu'il sera aussi présenté dans sa version originale au RVQC et qu'une discussion animée par Mounir Kadouri, alias maire de Laval, et Ariane Brunet suivra la fameuse projection à vitesse 1,5. Je vois que ça fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. C'est la réaction espérée, je pense. C'est important d'en parler, croit-elle. Contrairement à moi, la cinéaste de Nuit 1 et de Nelly considère que les rendez-vous Québec Cinéma sont le cadre idéal pour tenter de nouvelles expériences et aborder la question de la désaffection des jeunes pour le cinéma québécois. Je suis d'accord que le cinéma québécois doit tenter de séduire un plus jeune public, sollicité de toutes parts par des écrans depuis sa naissance. Mais est-ce une raison suffisante pour importer les mauvaises habitudes d'écoute en ligne dans les salles de cinéma? Si un jeune est capable de visionner en rafale dans la même soirée, 4 épisodes d'une heure et d'une série télé médiocre que lui propose Netflix ou Prime Vidéo, Il est raisonnable d'attendre de lui qu'il souffre de rester à son siège 100 minutes dans une salle de cinéma devant un film québécois primé à l'étranger. Je ne lui demande pas de regarder les 2h31 de La Graine et le Mulet. Contrairement au RVQC, je ne crois pas que le fait d'accélérer le rythme d'un film puisse piquer l'intérêt des nouvelles générations de cinéphiles. Les nouvelles générations de cinéphiles, qui aiment le cinéma, ne vont pas se satisfaire d'ersatz d'œuvres dénaturées. Les jeunes cinéphiles que je connais s'intéressent au cinéma parce que c'est un art de l'intention, de la subtilité, de la nuance. Ils sont abonnés à la Cinémathèque et vont au cinéma du musée découvrir un classique de Kurosawa ou de Bergman. Ils se rendent des week-ends à la Place des Arts pour revoir un vieux film de Spielberg ou de Lucas accompagné d'un orchestre symphonique. Il y a plus de risques de s'aliéner de jeunes cinéphiles avec une fausse bonne idée, comme ces projections vitesse 1.5, que de chances de séduire des jeunes que le cinéma n'intéresse pas. Leur présenter un film en accéléré me semble l'équivalent de tenter de leur parler en jeune, en intégrant dans le scénario d'un cinéaste de la génération X des dialogues plaqués destinés à des personnages de la génération Z. Il y a 2 semaines, j'ai assisté aux délibérations préliminaires du 15e prix collégial du cinéma québécois, dont Amour Apocalypse était l'un des 5 finalistes. Des cégepiens parlaient avec passion et éloquence de ce film d'Anne Aymont qui les avait touchés, bouleversés, dérangés. J'étais mal à l'aise de voir une fille agir comme ça, même si j'en connais, disait Sarah Maud à propos du personnage de Romy, une génération Z. La scène qui a le plus marqué Alison dans les films québécois de la dernière année est celle où Adam tombe d'un pont dans le film d'Anne Aymont. Je parie qu'elle n'aurait pas été touchée si elle avait vu tomber en accéléré, après avoir parlé avec la voix d'un chipmunk. Est-ce que ça va me briser un peu le cœur de voir mon film en accéléré? Oui, me confie Anne Aymont, qui n'est pas elle-même une adepte de cette pratique et qui ne compte pas assister à plus de 5 minutes de cette projection spéciale. Je la comprends. Pour moi, cinéphile devant l'Éternel, cette initiative est un aperçu de l'Apocalypse. L'Apocalypse en accéléré. C'était L'Apocalypse en accéléré, un texte de Marc Cassévy paru le 9 avril 2026 dans la presse.
Le dilemme du régime santé et vert. Un texte de Mathieu Perrault paru le 3 avril 2026 dans la presse. Une lectrice, Isabelle Rens, demande « Avec quels aliments ou cultures, insectes, céréales, graines, obtient-on le meilleur rendement avec le moins d'impact possible sur l'environnement, tout en nourrissant le plus grand nombre de personnes et en ayant les meilleures valeurs nutritives possibles ?» La revue médicale The Lancet a publié en 2019 un régime planétaire en santé, répondant justement à cette question. Le but du régime du Lancet est d'être bon pour la santé, mais d'en même temps tenir compte de l'impact environnemental, explique Oriana Bellissimo, diététiste à l'Université Concordia. Il priorise le plus possible les plantes et il évite les sources animales, bovines et laitières. Le régime vert du Lancet vise à contrer un problème fréquent des régimes végétariens et véganes. Quand on ne mange pas de protéines animales, si on ne fait pas attention, on peut manquer de certains nutriments comme la vitamine B12 ou le fer, dit Madame Bellissimo. C'est parfaitement possible de ne pas avoir ce problème, mais il faut faire attention. On peut prendre des suppléments alimentaires, par exemple. Ou on peut manger plus de légumes qui contiennent beaucoup de fer, comme les épinards, ou les manger avec de la vitamine C qui favorise l'absorption du fer. Certaines personnes qui prennent des suppléments de fer ont des effets secondaires de constipation, donne-t-elle en exemple des défis des régimes sans viande. Le bœuf est exclu du régime du Lancet pour de bonnes raisons. C'est vraiment de loin la plus grande source d'émissions de gaz à effet de serre, GES, liée à l'alimentation explique Elliot Muller du Centre international de référence sur l'analyse du cycle de vie et la transition durable, CIRAIG, de Polytechnique Montréal. Monsieur Muller a été impliqué dans le retrait du bœuf des cafétérias de l'école de génie à l'automne 2025. Elliot Muller fait le palmarès des émissions de GES de la table. Manger un steak vaut de 25 à 30 kg d'équivalent carbone pour 100 g de protéines. Ensuite, il y a le fromage, entre 10 et 12 kg. Puis le porc, de 6 à 8 kg. Le poulet et le poisson, de 4 et 6 kg. Les œufs, autour de 4 kg. Le tofu, 2 ou 3 kg. Et les noix et légumineuses, entre 1 et 2 kg. Déforestation. Mais attention, tout dépend des conditions de production. Si le tofu est lié à la déforestation, il pourrait être moins bon pour le climat qu'un poulet produit de manière très efficace, avec seulement 2 kg d'équivalent carbone pour 100 g de protéines, dit M. Muller. Et le transport? En général, il représente 6% des émissions de l'alimentation. Pour les protéines animales, le moyen de transport ne change pas grand-chose parce qu'elles ont déjà beaucoup d'émissions de GES, dit M. Muller. Les insectes sont un bon plan parce qu'ils se nourrissent de déchets et parce que tout leur corps est consommable. Seulement 40% du bœuf est consommable, dit M. Muller. Mais si on doit créer des nutriments pour produire des protéines d'insectes à grande échelle, le calcul change. D'autres éléments sont à considérer, comme la santé des écosystèmes, la pénurie d'eau et le bien-être animal, note M. Muller. Ces variables compliquent encore plus l'analyse. Par exemple, une poule en liberté a plus d'impact climatique parce que son élevage est moins efficace à cause d'une croissance plus lente, entre autres facteurs. Mais la différence entre une poule en liberté et en cage n'est que de 10% sur le plan des émissions de GES, selon M. Muller. En savoir plus, source Polytechnique Montréal. 26% part de l'alimentation dans les émissions humaines de GES. 13% part des élevages bovins dans les émissions humaines de GES. 8% part de la déforestation liée à l'agriculture dans les émissions humaines de GES. C'était « Le dilemme du régime santé et vert », un texte de Mathieu Perrault, paru le 3 avril 2026 dans la presse.
Relancer le gaz de schiste alors que les vieux puits fuient. Un texte d'Alexandre Shields, paru le 3 avril 2026 dans Le Devoir. Des puits forés il y a plus de 15 ans laissent toujours fuir du méthane, un très puissant gaz à effet de serre. La loi en vigueur au Québec oblige pourtant les entreprises à les fermer définitivement. Or, aucun des 29 puits n'a encore été fermé, malgré des dizaines de millions de dollars de fonds publics disponibles pour financer les travaux. Selon les données fournies au Devoir par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, MEIE, au moins 6 des 18 puits qui ont été forés et fracturés laissent présentement fuir du méthane dans l'atmosphère. Les 11 autres puits n'avaient pas été fracturés à l'époque de leur forage, vers 2010, soit au moment où l'industrie prévoyait de forer pas moins de 20 000 puits dans la vallée du Saint-Laurent. Le MEIE, que Mme Fréchette dirigeait toujours en janvier dernier, récolte sur une base régulière des données sur les fuites à la tête des puits. Celles-ci permettent de constater que le volume des fuites totales quotidiennes atteint 127,3 mètres cubes selon les données les plus récentes. Non seulement ce volume ne recule pas au fil des années, mais il serait même à la hausse, notamment par rapport à 2024. Globalement, le volume actuel de 127,3 mètres cubes par jour équivaut à près de 46 500 mètres cubes de méthane par année. Sur les 6 puits qui fuient, 3 représentent la quasi-totalité des fuites et ils sont tous connus pour relâcher du méthane depuis plusieurs années. C'est le cas d'un puits foré et fracturé en 2008 par Talisman Energy, une entreprise albertaine qui n'existe plus. Ce seul puits, situé à la Visitation, laisse fuir dans l'atmosphère plus de 18 000 mètres cubes de méthane chaque année. Dès 2010, des émissions de gaz ont été mesurées à 49 mètres cubes par jour et elles se sont poursuivies même après des travaux de réparation du puits. Selon les données du MEIE, les fuites quotidiennes dépassent aujourd'hui les 50 mètres cubes. Dans le cas d'un autre puits foré par Talisman, les fuites quotidiennes sont passées de 36 mètres cubes en 2024 à près de 42 mètres cubes aujourd'hui, soit plus de 15 000 mètres cubes par année. Ce puits situé à Saint-Édouard, en Montérégie, a connu des fuites dès 2010. Dans un rapport de 2019, un inspecteur du MEIE constatait de nouveau des problèmes importants. Il y a une migration de gaz qui représente un risque d'incendie ou un autre risque pour la sécurité des personnes et des biens et pour la protection de l'environnement. Un puits foré en 2007 par Gastem à Saint-Louis-de-Richelieu, à quelques mètres d'un secteur résidentiel, présentait pour sa part de faibles émissions en 2010. Mais lors d'une inspection réalisée en 2021, le ministère a constaté une fuite de gaz importante tout en notant une émanation de gaz hors d'un puits qui représente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour la sécurité des biens. Aujourd'hui, ce puits laisse fuir plus de 12 000 mètres cubes de gaz chaque année. Aucun puits fermé. Dans le cadre des travaux de fermeture définitive des puits, ces fuites devront être corrigées par les titulaires, indique le MEIE dans une réponse écrite. Ces 3 puits, problématiques depuis plusieurs années, devraient en fait être déjà fermés, tout comme les autres forés par l'industrie du gaz de schiste entre 2007 et 2010. Cette obligation légale découle de la loi adoptée par le gouvernement caquiste en 2022 pour mettre un terme à l'exploration pétrolière et gazière au Québec. Des plans de fermeture avaient même été déposés au MEIE dès 2019. Or, précise le ministère, aucun puits n'a encore été fermé définitivement en raison des délais occasionnés par les procédures judiciaires. Les entreprises responsables avaient en effet refusé de les fermer même si le gouvernement avait prévu de payer 75 % de la facture pour un total évalué à 33 millions de dollars. Au lieu de se conformer à la législation, elles ont intenté une action en justice pour contester sa constitutionnalité, évoquant une expropriation déguisée. Elles ne réclament pas moins de 18 milliards de dollars d'indemnisation dans le cadre de démarches toujours en cours. Elles ont contesté l'obligation de fermer leur puits. Un premier jugement de la Cour supérieure, rendu en janvier 2024, leur a accordé un sursis avant que la Cour d'appel du Québec ne tranche en faveur du gouvernement et annule ce sursis en mai 2025. Les entreprises se sont donc tournées vers la Cour suprême en déposant une demande d'autorisation d'appel de ce jugement. Celle-ci a rejeté leur demande en octobre dernier. Des fuites sous-estimées? Membre du collectif scientifique sur la question du gaz de schiste et les enjeux énergétiques au Québec, Marc Brouillemans déplore le fait que les puits forés à l'époque, sans consultation publique et sans évaluation environnementale, sont toujours présents dans le paysage. Il estime aussi que les fuites, qui témoignent selon lui des effets qu'aurait pu avoir le déploiement à grande échelle de l'industrie, sont sous-estimées. M. Brouillemans rappelle que la fracturation permet au méthane de fuir vers l'atmosphère sans remonter uniquement dans le puits foré. Que signifient néanmoins les fuites de méthane évaluées aujourd'hui à 127,3 mètres cubes par jour? Selon les calculs effectués par le titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal, Pierre-Olivier Pinault, cela équivaut chaque jour aux émissions annuelles de gaz à effet de serre d'un citoyen qui consommerait un peu plus de 1000 litres d'essence, soit la consommation moyenne annuelle. Le directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier, Normand Mousseau, estime que ces fuites se comparent chaque année au bilan carbone de l'utilisation de 250 véhicules à essence. Les émissions de méthane sont considérées comme étant particulièrement problématiques en matière de lutte contre la crise climatique, puisque ce gaz à effet de serre est au moins 80 fois plus puissant que le CO2 sur un horizon de 20 ans. Dans ce contexte, la directrice générale de Nature Québec, Alice-Anne Simard, déplore l'idée de vouloir relancer l'exploration en sol québécois. Forer des milliers de puits au cœur des communautés pour une énergie du passé ne ferait qu'augmenter la facture à payer par les contribuables québécois, alors que le potentiel économique de cette industrie n'a pas été démontré. Le Québec a tout à gagner à investir dans la transition énergétique et les énergies renouvelables, pas à revenir en arrière. C'était relancer le gaz de schiste alors que les vieux puits fuient. Un texte d'Alexandre Shields paru le 3 avril 2026 dans Le Devoir.
Les aliments frais sont-ils accessibles à tous les Montréalais? Un texte de Sarah Boumeda, paru le 7 avril 2026 dans Le Devoir. Peut-on accéder à des produits alimentaires frais en quelques minutes depuis n'importe quel endroit à Montréal? À pied, peut-être pas, mais le transport en commun peut changer la donne. Dans une étude publiée dans le Journal of Urban Mobility, des chercheurs de l'Université Concordia ont évalué l'accès des produits alimentaires frais dans la métropole selon 4 scénarios. Un trajet entièrement à pied, un trajet à vélo, puis 2 trajets combinant le transport en commun, l'un inclut une portion à pied, l'autre se tourne plutôt vers le vélo. Les études du genre, qui comprennent une analyse de l'accès aux services par transport en commun, sont plutôt rares dans le domaine, fait remarquer Sepide Korami Sarvestani, doctorante au département de géographie de l'Université Concordia et co-autrice de l'étude. On ne dit pas que l'accès à pied n'est pas nécessaire à Montréal ou ailleurs au Canada. Au contraire, nuance-t-elle en entrevue au Devoir. Mais il existe des solutions qui peuvent rendre l'accès à des aliments frais plus facile et plus accessible à plus de gens. Elle pense aux personnes âgées ou à mobilité réduite, pour qui le réseau de transport en commun est parfois une option plus réaliste que la marche pour se déplacer. L'accessibilité au transport collectif parvient, dans certains cas, à réduire l'écart d'équité à l'accès aux services essentiels, fait-elle valoir. Un accès accru par transport en commun. Les résultats de l'étude divergent selon le mode de transport. À pied, 17% de la population montréalaise ne peut accéder à des aliments frais en moins de 10 minutes. De plus, près de la moitié des résidents de la ville n'auraient accès qu'à 2 épiceries ou moins dans un tel rayon. On aperçoit alors des déserts alimentaires flagrants dans certains secteurs de l'est de l'île, Montréal-Nord, et une bonne partie de l'Ouest. Lorsque le temps de marche grimpe à 15 minutes, on parvient à réduire de moitié la proportion de résidents qui ne peuvent pas atteindre une épicerie. Un trajet de 10 minutes à vélo permet à près des 2/3 des Montréalais de faire leur épicerie dans au moins 5 établissements différents. Si on rallonge le trajet à 15 minutes, c'est alors 85% de la population qui peut la faire en choisissant son enseigne. Les infrastructures cyclables sont bonnes à Montréal et un trajet à vélo parcourt une plus grande distance qu'à la marche, fait valoir Madame Corami Servestani. Les résultats sont encore plus concluants lorsqu'on inclut le transport en commun où la durée a été établie à un maximum de 30 minutes, une mesure plus réaliste, écrivent les chercheurs. Un trajet combinant marche et transport collectif permet à 91 % de la population montréalaise de se rendre à une épicerie saine en moins d'une demi-heure. Le transport en commun offre par ailleurs un meilleur accès pour les habitants d'endroits moins bien desservis par le réseau cyclable de la ville, comme les arrondissements de Montréal-Nord, de Saint-Léonard ou encore de Saint-Laurent. La ville 15 minutes, c'est possible? L'accès à une alimentation saine fait partie des éléments à considérer lorsqu'on parle d'une ville 15 minutes. Cette théorie, définie par l'urbaniste franco-colombien Carlos Moreno, stipule qu'une ville devrait être organisée de manière à pouvoir offrir des services essentiels en santé et en éducation, ainsi qu'à des lieux culturels ou de loisirs, dans un rayon d'un quart d'heure de marche au plus. Est-il possible de faire de Montréal une ville 15 minutes? Ce concept nous vient des villes européennes et on ne peut pas entièrement le transférer au modèle nord-américain qui possède ses propres caractéristiques, explique Madame Corami Servestani. Vivre sa vie à pied à Montréal n'est cependant pas entièrement impossible. Une analyse publiée en 2024 par le laboratoire SONI des sciences informatiques de Rome montre que les quartiers centraux de la métropole permettent un mode de vie piéton en plus ou moins un quart d'heure de marche de chez soi. Lorsqu'on s'approche des extrémités de l'île comme Rivière-des-Prairies ou même dans l'arrondissement de Saint-Laurent, les déplacements à pied deviennent de moins en moins plausibles. Des résultats qui rappellent ceux de l'étude de Mme Corami Servestani. La métropole québécoise, comme plusieurs de ses homologues nord-américaines, demeure beaucoup plus pensée autour de la voiture que les grandes villes d'Europe. Mais quand on se penche sur Montréal, on se rend compte que le transport collectif est quelque chose d'assez fort et peut-être d'une grande aide, la démarquant ainsi d'autres villes canadiennes, conclut-elle. C'était « Les aliments frais sont-ils accessibles à tous les Montréalais? » un texte de Sarah Boumeda, paru le 7 avril 2026 dans Le Devoir.